qu'il faut que nous abordions, qui est un sujet brûlant, si j'ose dire, c'est le problème de la sauvegarde de la création. Je dis que c'est un sujet brûlant parce que vous savez que l'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire au grand dam de la France ces jours-ci, dans le but justement de sauvegarder la création avec tous ces problèmes écologiques, les vers et tout ça. Donc il faut qu'on envisage ce que la Bible dit à ce sujet. Au siècle dernier, qui était un siècle de grand optimisme, les chrétiens appuyaient à fond les révolutions industrielles qui avaient marqué le siècle, et ils utilisaient notamment un verset qu'on trouve dans le premier livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Voici, dit Dieu, je vous donne toute herbe porteur de semences qui est à la surface du sol, tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture, tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, tout ce qui rampe sur la terre, qui a souffle de vie, je vous donne aussi toute herbe verte pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Par conséquent, par sa science, par sa technique, l'homme accomplissait le commandement de la Genèse. Et alors, les chrétiens se sont lancés à corps perdu dans cette grande aventure de la révolution industrielle du siècle dernier. Il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que l'on commence à avoir une vision un peu plus nuancée de ces choses et qu'on se demande si, après tout, la croissance effrénée était véritablement l'accomplissement du commandement de Dieu et de la soumission de la terre, telle que le Seigneur, là, en tout cas, l'avait conçue. Il est vrai que ce commandement a été donné à l'homme. Il est vrai que l'homme, comme le dit d'autres passages bibliques, dans les psaumes notamment, « Tu as tout mis sous ses pieds », n'est-ce pas, dit le Seigneur, l'homme, roi de la création, c'est vrai. Mais cette soumission de la terre, d'abord, bien sûr, dans l'intérêt de l'homme, je vous donne ces choses, je vous donne les arbres fruitiers, l'herbe des champs, les animaux. Il est évident que, quand on voit, par exemple, le règne animal, il est évident que le Seigneur a prédisposé certaines espèces animales à être des auxiliaires de l'homme. Ce sont des animaux domesticables. Il y a des animaux qui sont domesticables, d'autres qui ne le sont pas. Comme s'il y avait là une loi du Créateur, n'est-ce pas ? Des animaux étaient là pour être au service de l'homme, puis d'autres qui n'étaient pas amenés à être directement à son service, n'est-ce pas ? Donc, c'est vrai que l'homme a utilisé dans son intérêt à lui les ressources que le Seigneur a mises sur la terre. Mais la question qui se pose est jusqu'à où et dans quel esprit? Aujourd'hui, le mouvement tend à s'inverser. Et chez ce qu'on appelle les verts, les écologistes, et aussi dans l'idéologie New Age, souvent inspiré d'ailleurs par des religions orientales, hindouisme, bouddhisme en particulier, il y a l'idée que, après tout, les autres créatures ont autant de valeur que l'homme. Vous savez que, notamment, l'hindouisme interdit de porter atteinte à la vie quelle qu'elle soit, toute vie est sacrée, y compris la vie animale, enfin la vie animale, du moins, pas la vie végétale, parce qu'à ce moment-là, la vie humaine serait impossible. Mais tuer une mouche, c'est, pour l'hindouisme, un crime aussi abominable que de tuer un homme, à la limite. Bon. Les écologistes, certains écologistes, vont encore beaucoup plus loin aujourd'hui. Ce n'est pas simplement toute vie qui est à respecter, mais c'est aussi, même les êtres inanimés, une pierre, et en caricaturant à peine, pour certains écologistes, une pierre naturelle, la mer, etc., a autant de valeur qu'un être humain. voit que c'est pousser les choses un peu loin, parce que là, justement, c'est réduire la vie humaine à peu de choses. Il y a manifestement dans la création de Dieu une hiérarchie de valeurs. Le monde minéral, d'abord, le monde végétal, d'ailleurs, c'est dans l'ordre de leur apparition aussi sur la scène de la création, le monde animal ensuite, avec les animaux supérieurs en particulier, et puis évidemment l'homme. Une hiérarchie de valeurs. La vie de l'homme est infiniment plus précieuse que la vie animale, pour ce que nous avons dit la dernière fois, à savoir que l'homme est le seul être sur la terre à apporter en lui l'image de Dieu. Et c'est pourquoi la vie humaine a une valeur unique. Maintenant, la vie des animaux supérieurs n'est pas indifférente aux yeux de Dieu. Il faut faire une première remarque, c'est que les animaux supérieurs étaient interdits à la consommation de l'homme jusqu'après le déluge. Ils étaient au service de l'homme. Les animaux viennent vers l'homme pour que l'homme leur donne un nom. Et donner un nom dans la parole de Dieu, c'est prendre autorité sur eux. Donner, pour l'homme, nommer les animaux, ça veut dire prendre autorité sur eux. Mais il est évident que les relations entre l'homme et l'animal, telles qu'elles sont conçues dans les premiers chapitres de la Genèse, est une relation d'amour. L'homme domine sur les animaux, mais il domine dans l'amour. Il domine pour, en quelque sorte, l'équilibre de la création tout entière. La volonté de Dieu par rapport à sa création est celle qui est exprimée dans les textes tels que Ésaïe 11, où le loup habite avec l'agneau, la vache mange de l'herbe comme le loup, n'est-ce pas ? Donc il n'y a pas cette rivalité entre les espèces, entre les animaux, qui est quelque chose qui est introduit par le péché. D'ailleurs, comme le faisait remarquer un biologiste dans une conférence du Séché à laquelle nous assistions il y a quelques années de cela, quand on étudie par exemple chimiquement ou biologiquement le venin du serpent, par exemple, c'est incroyable. Certains serpents, n'est-ce pas, on voit manifestement que le venin tel qu'il est conçu est une machine à tuer. C'est pas bon, et avec un raffinement véritablement, on pourrait dire presque diabolique. C'est pas la manière dont le venin paralyse les proies, les plonge dans des souffrances terribles, et puis ensuite les tue. N'est-ce pas, c'est véritablement une ingéniosité quasi diabolique. Bon, ça pose un problème énorme. Un Dieu bon, hein, le Dieu créateur de la Genèse, a-t-il pu lui concevoir une chose pareille? Et alors là, les textes comme Ésaïe 11 nous amènent à conclure que, au commencement, comme disait Jésus parlant du divorce, au commencement, dans la volonté de Dieu, il n'en était pas ainsi. N'est-ce pas? C'est quelque chose. Les animaux ne sont pas aujourd'hui, le règne animal n'est pas ce que Dieu veut qu'il soit. Le règne animal, le règne de la nature nous étonne, nous émerveille par bien des aspects et en même temps nous effraie. La sauvagerie des animaux les uns vis-à-vis des autres, il suffit de voir un chat en train de torturer une souris avant de la croquer, n'est-ce pas ? C'est terrible. Il la fait souffrir d'une manière maligne, méchante, n'est-ce pas ? Et bien des animaux prédateurs agissent de la même manière vis-à-vis de leur proie. Bon, on est obligé de dire, comme dans la parabole de Livret, c'est un ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et le texte de Romains 8, qui nous parle de la création qui a été touchée par le péché, soumise à la vanité, et qui soupire jusqu'à aujourd'hui les souffrances et les douleurs de l'enfantement. Quand on regarde l'infiniment petit, les microbes, certains virus, qui sont aussi de véritables machines à tuer, bon, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi ? C'est un ennemi qui a fait cela. La création est à la fois un hymne au Créateur, n'est-ce pas ? Et comme le dit l'apôtre Paul, les perfections de Dieu se voient dans la nature. Il y a une harmonie, il y a une beauté, il y a il y a un témoignage rendu à la grandeur, à la sagesse du Créateur, et en même temps, il y a un témoignage rendu à l'existence du mal, du péché dans le monde. La création est à la fois merveilleuse, et en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est détraqué dans la création, et quelque chose qui n'est pas normal. Et le texte de Romains 8 nous répond, n'est-ce pas ? La création a été soumise à la vanité à cause du péché de l'homme, jusqu'au temps où elle sera aussi affranchie de la vanité lors de la parousie du retour du Seigneur, ce qu'en hébreu justement on appelle le tikkun olam, la réparation de la brisure, n'est-ce pas ? Alors, les relations entre l'homme et la nature sont aussi faussées par le péché. Comme ces relations sont brisées et sont faussées avec toute chose. Les relations de l'homme et de sa femme sont faussées après la chute, après le péché. Et les relations de l'homme avec la nature sont aussi faussées. La nature qui lui fournissait naturellement sa nourriture sans qu'il ait d'effort à faire, notamment le fait de cultiver la terre d'une manière pénible en tout cas, maintenant va lui produire des épines et des chardons. Donc, la nature devient une ennemie. La terre devient une ennemie qu'il faut en quelque sorte violer pour l'obliger à donner ce qu'elle aurait donné autrement dans des conditions autres. Les animaux aussi, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose de faussé par rapport à l'homme et quelque chose de faussé les uns par rapport aux autres. Les animaux vont s'entretuer les uns les autres à l'image de ce que fera l'homme. Certains vont cesser de manger justement l'herbe verte et la semence, mais ils vont se mettre à dévorer d'autres, n'est-ce pas ? Ce qui non plus n'est pas la volonté de Dieu telle qu'elle est conçue au commencement et qui ne sera plus de mise lorsque précisément la brisure commise par le péché, introduite par le péché dans le monde, sera réparée. Alors, il y a un autre passage de la dégradation de ces rapports, c'est le déluge. Après le déluge, Dieu fait alliance avec l'homme et dit ceci, « Vous serez pour tous les animaux un sujet d'effroi. » Ce qui veut dire que jusqu'au déluge, ce n'était pas. Il y avait des relations autres entre l'homme et les animaux. Mais à partir du déluge, n'est-ce pas, l'homme devient un sujet d'effroi pour les animaux. La domination dans l'amour, qui était la volonté de Dieu, la domination de l'homme sur les animaux dans l'amour, donc de la nature aussi, y compris de la nature inanimée jusqu'à un certain point, dans la mesure où, précisément, il y avait un respect de cette création qui était imposée à l'homme, ça disparaît. Et maintenant, il y aura domination de l'homme sur la nature et sur les animaux, parce que c'est la volonté de Dieu au commencement, mais une relation qui se fera dans la violence, dans la peur, dans la contrainte. Ça. Certains animaux se soumettent à l'homme, d'autres refusent de se soumettre. Et puis aussi, n'est-ce pas, il y a une autre permission qui est donnée à l'homme, de consommer les animaux, de manger les animaux. Mais il y a une limite qui est mise à cette domination. Cette domination n'est pas absolue. Il faut d'abord que l'animal ait été tué d'une manière qui soit la moins pénible et la moins douloureuse possible, d'où le fait justement que la consommation du sang est interdite à tout homme. C'est les lois noachiques et non pas simplement les lois données au peuple juif, n'est-ce pas ? L'animal doit être vidé de son sang pour être certain qu'il est mort, car la vie de l'animal, la vie de l'être humain est dans son sang. Donc quand l'animal a été vidé de son sang, on est sûr qu'il est bien mort. C'est pour s'en assurer qu'il faut verser le sang de l'animal avant de le consommer. Et la Bible s'inscrit en faux contre les consommations d'animaux vivants. Notamment certains en Chine ou autres lieux d'Extrême-Orient, on consomme des animaux vivants comme ça, au mépris justement des lois noachiques. Ce qui signifie qu'on n'a pas le droit de tout faire avec les animaux. Et lorsque Dieu donne sa Torah à Israël, il réitère cette permission de manger, et encore le peuple d'Israël Il y a une restriction, certains animaux seulement, les animaux cachers, ça c'est encore un autre problème dans lequel je n'entrerai pas ce soir, mais même ces animaux-là doivent être saignés d'une certaine manière, et il y a des règles, de, par exemple, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère, on ne peut pas manger le même jour la mère et ses petits, on a le droit, n'est-ce pas, de prendre les petits d'un oiseau pour les consommer, mais il faut laisser partir la mère pour garder justement la possibilité de la reproduction et ne pas détruire l'espèce, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de règles que l'on pourrait qualifier de règles écologiques qui se trouvent ainsi prescrites dans la Bible. C'est dire que jusqu'à un certain point, la Bible rejoint un certain nombre de préoccupations, justement, des écologistes modernes. Mais sans aller aussi loin qu'eux. Et c'est précisément ces limites qu'il nous faut préciser. Les limites, eh bien, c'est que, justement, l'homme a le droit d'utiliser pour son compte personnel la création. Mais cette création ne lui appartient pas. L'homme domine sur les animaux et sur la création dans son ensemble, pourrait-on dire, au nom de Dieu. Ça veut dire, il est le gérant, il est l'intendant de Dieu sur la terre, et il n'en est pas le maître, il n'en est pas le patron. Et Dieu lui demandera des comptes, Dieu demandera des comptes à l'humanité de la manière dont il aura géré le patrimoine qui lui a été confié, le patrimoine de la création. C'est une étude biblique passionnante à faire que les animaux dans la Bible. Il y a par exemple un verset tout à fait intéressant dans le livre du Lévitique qui est repris par l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens. « Tu n'emmuseras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. » Et de ce verset, Paul tire la conclusion que l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi Dieu autorise-t-il l'homme à utiliser la création pour son compte personnel ? Selon le même principe que tu n'emmuseras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Parce que l'homme, étant l'intendant de Dieu sur la terre, étant créé à l'image de Dieu, eh bien, a le droit d'utiliser, justement, cette terre qu'il a pour mission de mettre en valeur et de travailler, parce que n'oublions pas que l'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour le travailler, et pour le garder, mais pour le travailler. Le travail n'est pas une malédiction de la chute, contrairement à ce qu'on pense. L'homme n'avait pas été placé sur la terre pour se tourner les pouces, n'est-ce pas, mais pour travailler. La chute, la malédiction de la chute, c'est quoi? C'est que le travail devient pénible. Jusqu'alors, le travail n'était pas pénible pour l'homme. Et la malédiction, ce n'est pas le travail, c'est la pénibilité du travail. N'est-ce pas? Alors, l'homme est placé sur la terre pour travailler la terre, pour la gérer au nom de Dieu. Et il est normal qu'il en profite. Il est normal qu'il utilise justement ce patrimoine qui lui est confié pour ses besoins. Mais l'homme n'est pas le patron. Et l'homme aura des comptes à rendre de la manière dont il gère ce patrimoine qui lui a été confié. Et il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Il ne peut pas en faire ce qu'il veut d'abord parce que Dieu pose des limites, nous l'avons vu. Même chose aussi, par exemple, pour ce qui concerne le règne végétal, on ne peut pas cultiver la terre n'importe comment. Il y a des lois très précises qui sont données à Israël à ce niveau-là. Le système des jachères, pour permettre à la terre de se reposer. Une année sur sept, la terre doit être laissée en friche pour qu'elle se renouvelle, bien sûr. On peut dire, mais c'était parce qu'on ne connaissait pas des techniques qu'on a aujourd'hui qui permettent que... Bon, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de sagesse dans cet ordre de la Bible que l'on ne le pense a priori, tu vois. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas, faire n'importe quoi, même aussi à ce niveau-là. Bon, il y a les lois du jubilé. Il y a l'interdiction de couper les arbres fruitiers, par exemple, pour... aller faire le siège des villes. L'arbre est-il un être humain pour que tu t'irrites contre lui, dira le Seigneur. Il y a la nécessité de considérer ces arbres fruitiers incirconcis pendant un an ou trois ans, je ne sais plus exactement, c'est pas pendant un certain temps en tout cas, c'est pas avant de pouvoir utiliser leurs fruits. la nécessité de laisser une partie du champ en friche. Enfin, il y a un certain nombre de lois dans la parole de Dieu qui sont manifestement des lois qui ont pour but le respect de la nature, de la création, et le fait justement de préserver ce patrimoine qui est laissé à la disposition de l'homme. Même chose aussi en ce qui concerne les animaux purs et impurs. Une des raisons de la cacheroute, c'est aussi de n'utiliser, n'est-ce pas, pour ses besoins personnels, qu'un certain nombre d'animaux que l'on peut avoir en abondance, et puis de laisser un certain équilibre aussi dans la nature, un certain autre équilibre dans la création. C'est une des raisons de la cacheroute. C'est pas la seule, bien sûr, mais c'est aussi une des raisons. Alors, ça, c'est un point très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on arrive à ce point du non-respect, justement, de la nature. Et c'était, justement, ce qui a été le grand drame du XIXe siècle, c'est le pillage des ressources naturelles. Et la Bible s'inscrit en faux ici contre une des grandes idéologies, une des grandes idoles de notre temps, qui est l'idéologie de la croissance. La croissance, vous savez, c'est le mot que l'on entend constamment. La croissance, c'est la baguette magique qui va faire tous les miracles que l'on attend pour l'avenir. De la croissance, on attend la résolution des problèmes de chômage, des problèmes du sous-développement, du tiers-monde, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. La croissance, la croissance, la croissance, on n'entend que ça. La croissance va tout résoudre, la crise industrielle, la crise financière, bon. Jacques Ellul, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, a, avec le bon sens qu'il caractérise, c'était son mot, j'ai un bon sens à ras de terre, a dit ceci: parler d'une croissance indéfinie, parce que dans le fond c'est de cela, on se comporte aujourd'hui en économie mondiale, parce qu'on voit maintenant les problèmes à l'échelon mondial, comme si on était parti pour une croissance indéfinie et infinie, sans s'imaginer que dans notre monde, rien n'est infini. Nous vivons dans un monde fini, dans un monde bordé, dans un monde limité, et que la croissance, elle ne pourra pas toujours grandir. Il y aura un jour où il y aura épuisement des ressources naturelles, où il y aura épuisement des terres cultivables, où il y aura épuisement de l'eau, de l'air, de l'environnement, et où la croissance, eh bien, s'arrêtera, et il y aura décroissance, parce que c'est une loi incontournable dans le monde tel qu'il est, tel qu'il existe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et il y a des années que Jacques Ellul a tiré la sonnette d'alarme quant à cette idéologie, cette idolâtrie de la croissance illimitée, en disant, bien, on ferait bien de rechercher justement à limiter la croissance, parce qu'un jour viendra où le système tout entier se bloquera. Or, on arrive à un stade où on est tout près de ce blocage justement du mécanisme de l'économie mondiale, parce que justement on n'a pas pris en compte ces phénomènes-là. Bien des exégètes ont étudié dans cette optique-là aussi le livre de l'Apocalypse, où les grands fléaux qui marquent la fin, n'est-ce pas, ressemblent étrangement à des problèmes de pollution avec lesquels d'ores et déjà nous sommes confrontés. Pollution du tiers de la mer, déjà le commandant Cousteau tirait la sonnette d'alarme, disant que des mers entières étaient en train de mourir. Je crois que la Méditerranée, il l'a considérée comme une mer morte, déjà, pratiquement, n'est-ce pas? Les pollutions maritimes sont absolument inimaginables. Pollution de l'air, on commence maintenant à être confronté à ces problèmes-là. Dans les grandes agglomérations urbaines, il y a des problèmes tels qu'on est obligé de réglementer l'usage des voitures, des choses comme ça. Bon, pollution des eaux consommables, des eaux douces, des eaux de fleuve, des choses comme ça, ça, on commence déjà à être affronté aussi à ces choses-là. Tout à l'heure, j'ai écouté par hasard un bulletin d'information dans ma voiture. Et il y avait une interview au sujet justement de ces fameuses décisions prises par les Allemands au sujet de la fin du nucléaire, mesure que personnellement j'approuve. Il serait temps qu'en France on se mette aussi à ça. Et l'Allemand qui était interviewé disait, mais enfin écoutez, visitez certaines régions d'Ukraine. Après Tchernobyl, vous verrez ce que c'est qu'une région qui est devenue inhabitable, invivable, n'est-ce pas ? Et bon, ben, quand on lit l'Apocalypse, ça ressemble étrangement à ce qu'on lit là-dedans, n'est-ce pas ? Et quand on voit justement ces centrales thermonucléaires, et nucléaires plutôt, qui existent par dizaines dans notre pays, c'est des bombes qui peuvent nous éclater d'un jour à l'autre à la figure, n'est-ce pas ? Sans qu'on s'y attende, enfin c'est fou, c'est insensé, n'est-ce pas ? Ce mythe de la croissance, cette idéologie de la croissance illimitée, c'est une véritable folie, mais l'homme est incapable de s'arrêter dans cette croissance-là, n'est-ce pas ? Alors, il y en a toujours des réponses formidables en disant, bien, oui, mais alors quand on aura épuisé le pétrole, quand on aura épuisé le charbon, les ressources naturelles, on trouvera autre chose. Et quand on aura épuisé les terres cultivables, eh bien, on fera pousser des beefsteaks sur du pétrole. Enfin, on obtiendra du beefsteak à partir du pétrole. Moi, quand on n'aura plus de pétrole, on trouvera autre chose. Et puis, quand la terre sera devenue invivable, eh bien, on ira coloniser les planètes, a dit un imbécile de service un jour que Jacques Ellul objectait cette chose-là, n'est-ce pas ? On trouvera le nucléaire quand on n'aura plus de pétrole. Bah oui, mais le nucléaire, il va nous exploser à la figure. Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Ah bon, on trouvera bien quelque chose, la technique trouvera bien quelque chose, la science trouvera bien quelque chose. Et alors, Jacques Ellul disait, oui, mais alors, il faudra bien un jour quand même où il n'y aura plus. Ah oui, a répondu le technicien de service, mais il faut quand même qu'on laisse quelques problèmes à nos descendants. Oui, quelques petits problèmes, quoi. Quelques petits problèmes quand tout le système sera grippé. Jacques Ellul, lui, avait une solution qui était humaine, mais enfin qui était totalement utopique, que l'humanité accepte de freiner volontairement sa croissance pour revenir à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus frustre, qu'on accepte de vivre avec des salaires. Il proposait de diviser par 10 le salaire moyen. Vous voyez ce que ça veut dire ? Qui est prêt aujourd'hui à avoir son salaire être amputé par 10. Donc, refuser tous les biens de consommation inutiles auxquels on est habitué, commencer par la télé, par les gadgets de tout poil que l'on a constamment, les voyages coûteux, les sports d'hiver et toutes ces choses-là. Bon, pour vivre une vie beaucoup plus simple, travailler moins aussi, et revenir à l'artisanat, des choses comme ça. Bon, il dit, ce serait le seul moyen. Bon, c'est complètement inimaginable. C'est évident que le Français moyen lui-même n'est pas prêt à quelque chose comme ça. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce que là, on se trouve confronté avec un autre problème sur lequel Jacques Ellul aussi a énormément travaillé, c'est le problème de la technique. Bon, la technique, ça demanderait des heures et des heures pour qu'on en parle. Je vous renvoie à ces deux ouvrages essentiels sur cette question-là, la technique et l'enjeu du siècle, et puis le bluff technologique. On l'a en bas, je crois d'ailleurs, celui-là. Bon. L'analyse de Jacques Ellul sur la technique, qui est une analyse qui part de la Bible, est une des plus pertinentes que j'ai jamais lues sur le sujet. Jacques Ellul part de la constatation suivante dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas ? L'homme, après la chute, se retrouve nu. Ça veut dire quoi ? Alors, on a dit beaucoup de bêtises sur cette nudité de l'homme après la chute, mais la nudité de l'homme, c'est quoi ? C'est sa fragilité. L'homme, dans le règne animal, est un être vivant qui est le plus fragile, le plus démuni de tous les êtres vivants. Il est nu, de fait, ça veut dire qu'il n'a pas de fourrure pour se protéger, pour être naturellement protégé des intempéries comme les autres animaux, comme la plupart des autres animaux. Il n'a pas de moyen de défense naturel, c'est pas avec ses dents, c'est pas avec ses ongles, qu'il va pouvoir lutter à armes égales contre des animaux qui, eux, ont ces moyens de défense. Il ne peut pas fuir à la course comme des animaux qui, n'ayant pas ces moyens de défense, peuvent échapper au danger par une fuite rapide. Donc l'homme est totalement démuni. Et qu'est-ce qui faisait la sauvegarde de l'homme ? C'était la protection de Dieu dans le jardin d'Éden. À partir du moment où Dieu se retire, il laisse l'homme nu, démuni. Alors la première chose que fait l'homme, eh bien, c'est qu'il devient, comme l'a dit Bergson, l'homo faber, l'homme qui fabrique. Il se fait des ceintures. Ça veut dire qu'il invente la technique. La technique est la conséquence directe de la chute, la conséquence directe du péché. Et l'homme devient un être technicien. Il est obligé, pour pouvoir vivre sur la terre, de devenir technicien. Il construit des objets techniques. Et c'était l'intuition de Bergson, qui n'était pas chrétien, du moins, pas dans la majorité de sa vie, il serait mort chrétien d'après ce qu'on dit, mais Bergson avait constaté qu'on parle d'être humain à partir du moment où on trouve des objets fabriqués. C'est peut-être un peu simpliste, parce que certains animaux supérieurs sont éventuellement capables d'utiliser des objets simples, par exemple des singes sont capables de prendre des bâtons pour pouvoir accéder à certains arbres, des choses comme ça, certains fruits. Bon, enfin, c'est quand même très simpliste. Mais on parle d'homme, d'hominisation, dans une conception évolutionniste, qui n'est pas la nôtre, bien sûr, mais enfin, qui était celle de Bergson, en tout cas, à partir du moment où il y a des objets techniques qui sont inventés. Et de fait, l'homme pécheur, l'homme de la chute, est un homo faber, un homme technicien, un homme qui fabrique des objets. Et la technique a toutes les caractéristiques du péché. La technique, elle procure un avantage immédiat à l'homme, à son inventeur, mais l'être humain ignore les effets à long terme, les conséquences secondes justement de ses inventions. Alors quand c'est fabriqué la roue, quand c'est fabriqué le vêtement, quand c'est fabriqué les choses de base, n'est-ce pas, ça ne porte pas à préjudice. Et Jacques Ellul s'insurge très fort contre ce qu'on a voulu faire de lui, c'est-à-dire un adversaire de la technique. L'homme ne peut pas vivre sans technique. L'homme ne peut pas. Le mythe du bon sauvage de Rousseau n'est pas biblique, bien que Rousseau, justement, avait essayé de le déduire de la Bible, car il était de formation protestante, mais il avait une vision faussée de la Bible, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Dieu lui-même conduit l'homme à être technicien, n'est-ce pas ? Parce que, ayant retiré sa présence, il sait bien que l'homme n'a d'autre ressource que, justement, d'employer la technique, donc, automatiquement, ce qui permet de faire progresser la technique et la science. Science et technique étant absolument liées. L'homme, l'idée, n'est-ce pas, l'idée écologiste moderne aussi, n'est-ce pas, comme quoi il faut revenir à une vie entièrement naturelle, ça c'est mythique, ça c'est utopique. On ne peut pas revenir à une vie naturelle. Dans la nature, l'homme ne peut pas subsister, ne peut pas vivre à l'état naturel. L'homme n'est pas un animal pour ça, justement. Les ours peuvent vivre à l'état naturel. Les loups peuvent vivre à l'état naturel. L'homme ne peut pas vivre à l'état naturel. Ça n'existe pas. Donc l'homme est appelé à vivre dans l'artificiel. L'artificiel est le propre de l'homme. L'artificiel n'est pas mauvais. La technique n'est pas mauvaise. Mais ce qui devient mauvais, comme tout ce que l'homme fait, parce que c'est marqué par la chute. Et la chute est quand même à l'origine de la technique. Donc, dans la technique, il y a quelque chose de pervers en soi. Et ce pervers, c'est lorsque, précisément, l'homme est uniquement un être technicien, devient uniquement un être technicien. Et au fur et à mesure que la technique progresse, car la technique est le seul domaine dans lequel il y a un progrès, est le seul domaine dans lequel il y a une évolution. Et il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès dans le domaine moral. Il n'y a pas de progrès dans le domaine de la pensée philosophique de l'homme, pourrait-on dire. Il n'y a pas de domaine dans l'expression des sentiments, des arts, c'est pas vrai. On peut retrouver, comme disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans ce domaine-là. Si on veut prendre, par exemple, la beauté littéraire, vous trouvez des poèmes magnifiques, des poèmes d'amour, magnifiques à l'époque des pyramides, aussi beaux que ceux qu'on pourrait imaginer aujourd'hui et qu'on considère comme les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. On pourrait prendre la beauté des temples grecs est infiniment supérieure à celle de nos édifices modernes. Bon, etc. Il n'y a pas de progrès. Il y a un mythe du progrès aujourd'hui aussi dans notre société. Mais sur quoi repose ce mythe? Sur une constatation. C'est qu'effectivement, les deux siècles et demi qui viennent de s'écouler ont vu un progrès technique phénoménal. Parce que le domaine technique est le seul domaine dans lequel il y a un progrès indéniable. C'est le seul domaine dans lequel l'homme puisse progresser. Et alors, l'homme a été ébloui, a été mystifié par le progrès technique de la fin du XVIIIe et du XIXe essentiellement, et puis du XXe siècle aussi, de telle sorte que l'homme a été amené à considérer que, parce qu'il y a progrès technique, il y a progrès en tout. Et le mythe de l'évolution, par exemple, est basé uniquement, est une idéologie mythique et une utopie du XIXe siècle, qui était le siècle, justement, du progrès technique. C'est transposer dans le domaine philosophique ce qui était une évidence expérimentale, enfin, disons, quelque chose qui était là, sous les yeux, mais qui était limité, tout simplement, à un domaine précis, qui était le domaine technique. Et alors, justement, le progrès des techniques qui restait relativement stable pendant des siècles, par exemple, dans le domaine des techniques, le Moyen-Âge différait assez peu de l'Antiquité, par exemple. Et un Romain, par exemple, ou un Grec, ou même un Égyptien, qui soudain serait ressuscité et qui se serait retrouvé au Moyen-Âge, en Occident, par exemple, n'aurait pas été tellement dépaysé, n'aurait pas été désorienté. Imaginez maintenant un Égyptien de l'époque des pyramides, revenant dans notre monde moderne, bon, ben là, automatiquement, c'est sûr qu'il serait complètement désorienté. Hein. Donc, il y a eu un effort assez long des techniques. Et puis, soudain, n'est-ce pas, à la fin du XVIIIe, et surtout pendant le XIXe, il y a eu cette explosion, n'est-ce pas, ces révolutions industrielles, qui ont conduit, d'ailleurs, le XIXe à être un des siècles les plus optimistes qui soit, parce que, justement, on croyait à cette croissance illimitée, on croyait que quelque chose de nouveau allait naître et que un surhomme allait apparaître, tout simplement parce qu'il y avait ce progrès exponentiel dans lequel on était entré. Et de fait, n'est-ce pas, les découvertes techniques ont permis des découvertes scientifiques, et les découvertes scientifiques ont permis des découvertes techniques, n'est-ce pas? Donc des fabrications d'instruments de mesure, d'observation, qui ont permis à leur tour des progrès des sciences, et une espèce de circuit fermé qui se crée, n'est-ce pas? Pour créer cette explosion exponentielle, justement, des découvertes techniques, qui n'est pas terminée aujourd'hui. Nous sommes en plein dans notre domaine informatique en particulier. Par conséquent, là, il y a eu, en l'espace d'un siècle et demi, une transformation du monde qui est sans équivalent dans l'histoire. Et, dit Jacques Ellul, s'est alors créé ce qu'il appelle un système technicien. Jusqu'à, disons, au XVIIe siècle, en gros, l'homme vivait dans un univers naturel où il employait des objets techniques. Et un enfant qui naissait, par exemple, la première chose qu'il entendait, c'était le meuglement des vaches, l'aboiement des chiens, les premiers objets avec lesquels il entrait en contact étaient des objets naturels, il sortait de chez lui, c'était la campagne, c'était les forêts, c'était ça. Et puis là, ben, il y avait des objets techniques, il y avait des brouettes, il y avait des charrues, il y avait des lampes, il y avait des vêtements, il y avait des métiers à tisser, il y avait des choses comme ça. Mais l'essentiel de l'environnement de l'être humain était naturel. Aujourd'hui, l'enfant qui naît, il naît à la clinique, la première lumière qu'il voit est la lumière artificielle. Ce qu'il entend, c'est le bruit des machines qui sont autour de lui, qui l'ont aidé à naître. Il est placé dans des chariots, etc. Les premiers objets qui lui sont donnés à palper, ce sont des hochets artificiels et des choses comme ça. Et il vit dans un environnement technique où il y a encore un peu de naturel. Donc il y a un système technicien. Un système technicien qui est l'univers dans lequel se trouve l'homme moderne, qui est devenu un homme uniquement technicien, qui ne peut plus vivre et qui ne peut plus raisonner autrement qu'en termes de technique, et qui technicise tout. À le moindre problème qui se pose, eh bien, au moindre problème, on va apporter des réponses techniques. Le problème du divorce. Pourquoi des couples ne s'aiment-ils plus? Bon, il faut apporter des réponses techniques. Qu'elles vont être? Eh bien, ça va être la psychanalyse, la psychologie, etc. Bon, quelqu'un a subi un choc affectif, eh bien, on le met entre les mains d'un psychiatre. Avant, on l'aurait mis entre les mains d'un prêtre ou bien d'un homme, d'un religieux. L'éducation des enfants. Mais mes pauvres amis, c'est tout simplement un problème technique, il faut apprendre. Il y a des techniques de pédagogie. Voulez-vous faire de l'évangélisation? Mais il y a des techniques d'évangélisation, ça s'apprend. On ne s'improvise pas aujourd'hui dans l'évangélisation. Mais il y a le Saint-Esprit. Mais non, mais le Saint-Esprit s'est dépassé. Aujourd'hui, c'est les techniques. Il faut apprendre la technique de dynamique de groupe pour être un bon évangéliste. Il faut apprendre comment créer une atmosphère, etc. Voilà, c'est ça, ça s'apprend, ça. Il y a des écoles pour ça. Tout est technique, tout est technicisé. On vit dans un système technicien. Et alors, la technique, évidemment, c'est la transformation de la nature, des moyens naturels, Et alors, la technique a des effets pervers suivants. Alors là, il y en a beaucoup que Jacques Ellul énumère, mais les principaux sont ceux-ci. La première chose qu'il faut dire, c'est que tout objet technique, maintenant, s'intègre dans un tout. Et vient ajouter à la perfection du système. Et c'est pourquoi le sophisme que l'on entend généralement quand on parle de la technique, y compris chez de nombreux chrétiens, on met l'objet technique en lui-même, ni bien ni mal, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. C'est une bêtise sans nom. Ceux qui disent ça n'ont jamais réfléchi au problème, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, oui, mais pourtant, regardez, l'atome, on peut en faire des bombes atomiques, on peut en faire des centrales, on peut en faire des isotopes radioactifs pour soigner les cancers, etc., etc. Ça, c'est du sophisme, c'est une vision trop superficielle des choses. Parce que, encore une fois, l'objet technique n'est pas un objet isolé. Et éventuellement, je ne sais pas moi, il y aurait l'automobile, prenons l'automobile, qui est un des symboles justement du progrès technique. Bon. On invente une auto. Alors vous allez me dire, c'est ni bon ni mauvais, c'est l'usage qu'on en fait. Mais l'auto, elle ne peut pas exister toute seule. L'auto, il faut mettre de l'essence dedans. Bon, et l'essence, comment vous allez avoir de l'essence? Il faut aller la chercher en Arabie Saoudite, il faut la raffiner. Donc ça, c'est des techniques. Après, il faut l'amener sur place. Après, il faut des réseaux de distribution. Et puis, la voiture, elle va rouler quoi comme ça dans les champs? Non, il faut des routes, il faut construire des routes. Et comment construire des routes? Ben, il faut de l'asphalte. Et l'asphalte, ça se prend où? Ben, c'est pareil, c'est toute une technique. Et puis quand vous avez des routes, ben, vous n'allez pas rouler n'importe comment sur ces routes. À la vitesse où vont les voitures, il faut une réglementation. Il faut des feux rouges. Il y a tout un environnement technique qui s'impose. Et c'est tout l'environnement qui est bouleversé par l'automobile. L'automobile, c'est pas un objet isolé. Et malgré ça, bien l'automobile, c'est ni bon ni mauvais. C'est formidable, l'auto. Regardez, la liberté qu'on a, on peut prendre sa voiture pour aller où on veut. Bon, c'est très bien. Et puis, la vitesse à laquelle on peut aller. Vous pensez qu'à l'époque de Louis XIV, il fallait quoi? Il fallait, en roulant bien dans les diligences de l'époque, il fallait une semaine pour aller de Rennes à Paris. Aujourd'hui, en 5 heures, vous y êtes. Enfin, c'est quand même un progrès formidable. Vive la voiture. Oui, vive la voiture. Combien il y a de morts sur les routes de France par an? Je n'ai plus les statistiques en tête. 10 000, je crois. 10 000 morts. Ouais, sans parler des blessés. 10 000, c'est une ville comme Carré. Une ville comme Carré qui est rayée de la carte, tous les ans, pour ne parler que de la seule France. Ah, mais mon pauvre monsieur, qu'est-ce que vous voulez? C'est la rançon du progrès. Ah oui? Mais réfléchissez un petit peu à ce que vous dites. La rançon du progrès? Est-ce que la liberté d'aller de Rennes à Paris en 5 heures, sur un plan d'éthique chrétienne, j'entends, est-ce que ça vaut qu'on sacrifie 10 000 personnes par an? Il faut réfléchir un peu. Est-ce que, en tant que chrétien, on a le droit de dire ben, « C'est normal que pour ma liberté d'aller à Paris et de Paris à Rennes en 5 heures, on sacrifie 10 000 personnes, sans parler de tous les blessés, tous les estropiés. Hein? » Et on condamne les gens qui sacrifiaient au Moloch, comme ça, leurs enfants, tout ça, du temps des Cananéens. Mais on fait pire qu'eux. Et on adore quoi? L'idole de la technique, l'idole du progrès. Alors, personnellement, mais je ne me sens pas coupable de ça. Moi, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais provoqué d'accident envers personne. Je suis un conducteur qui respecte les règles du code de la route. Et oui. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement que de m'occuper de ma voiture. C'est vrai. On ne peut plus vivre sans voiture. Demain, on ne pourra plus vivre sans ordinateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système technicien, indépendamment de l'usage qu'on en fait, a des effets pervers seconds. Des effets pervers, c'est tout. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a une dynamique qui est lancée. Et parce que ce qu'on peut faire, on le fera. Ça, c'est le troisième effet pervers de la technique. C'est que vient un moment où il y a une autonomie du système. L'homme ne le contrôle plus. Regardez par exemple avec l'informatique. On a dit, mais l'informatique, c'est un danger pour les libertés. Ben oui, alors on a créé la commission informatique et liberté. Eh bien, la dite commission vient d'autoriser dernièrement le gouvernement à interconnecter les fichiers. Elle était là justement pour le contraire. Et pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas ne pas interconnecter les fichiers. Bon, on parle du clonage. On dit, clonage, jamais de la vie. On n'autorisera pas jamais le clonage. Bon, j'entendais une information aujourd'hui même, disant, bien, il y a déjà eu des expériences de clonage, je ne sais plus dans quel pays, n'est-ce pas, et on ne pourra pas toujours interdire le clonage. Mais non, on ne pourra pas, bien sûr. Il y aura des clones. Ce qui est techniquement faisable se fera, indépendamment de toute morale. Le système technicien est immoral ou amoral. Il n'a, pourquoi? Parce qu'il est illimité, il n'a pas de limite. Il y a une hubris, c'est-à-dire un orgueil, n'est-ce pas, qui fait qu'il faut toujours aller au-delà des limites. C'est l'engrenage. Le professeur Testard, en son temps, avait démissionné pour protester contre, justement, cette recherche illimitée. Tout ce qui est à faire, on le fera. On n'accepte aucune barrière, on n'accepte aucune limite. Et la disparition de la morale aujourd'hui vient de ce que l'humanité a une mentalité technicienne. Ce qui est faisable se fera. Dans le domaine sexuel, par exemple, la pilule, la fameuse pilule, quand elle a été inventée, a permis justement tous les dérèglements sexuels. Avant, les filles étaient un petit peu retenues par la crainte d'une grossesse, etc. Bon, ben maintenant, avec la pilule, hop, on a résolu le problème moral, le problème qui se posait sur le plan moral, maintenant se résout en problème technique. Et dernièrement, enfin, il y avait plusieurs années déjà de cela, il y avait une publicité pour inciter les jeunes filles à prendre la pilule pour éviter les grossesses indésirées, parce que quand même, c'était un problème, quoi. Il y avait des avortements de toutes jeunes filles, c'était quand même embêtant dès l'âge de 14, 15 ans, il y avait des filles qui se faisaient avorter, enfin, c'était pas l'idéal. Bon, il y avait l'avortement, mais enfin, quand même, si on pouvait éviter ça. Alors, il y avait une publicité à la télé pour inciter les filles à prendre la pilule. Alors, on voyait une personne d'un certain âge, mère de famille, en train de se promener avec de dos d'ailleurs, avec une petite jeune fille de 14 ans. Et puis parlons de ces choses, n'est-ce pas, qu'on ne parle pas en général. Est-ce que tu as un petit ami, etc., disait l'adulte à l'enfant, disons, jeune adolescente, 14 ans. Alors, toute gênée, la petite dit, ben, j'aimerais bien, il y a un tel, là, il y a Jean-Claude, il me plaît bien, mais j'ose pas parce que, ah oui, t'oses pas parce que, ben oui, la grossesse, quoi, ben oui. Mais il y a un moyen, il y a la pilule. Voilà. Donc, un problème moral, un problème éthique profond, n'est-ce pas ? Eh bien, la solution, elle est technique, c'est tout. Tu as la pilule, maintenant, vas-y, tranquille, n'est-ce pas ? Voyez-vous, ça, c'est le propre du système technicien, tel que Jacques Ellul l'a étudié, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, c'est encore infiniment plus complexe que ça, il y a aussi le problème des coûts. Le problème, c'est que le système technicien devient de plus en plus cher, et vient un moment où, justement, aussi, pour le simple fait de l'augmentation des coûts, il s'écroule. Autre problème du système technicien, c'est qu'il est fragile. Plus il devient complexe, plus il devient fragile. Et vient un moment où il suffit qu'un chaînon intermédiaire casse, et puis c'est tout le système qui se bloque, qui se grippe. Et puis, autre problème également, le système technicien détruit toujours quelque chose. Ce que l'on gagne, quelque part, on le perd toujours ailleurs. Les inventions extraordinaires de notre temps font disparaître des savoirs anciens. Donc automatiquement des états d'esprit, des mentalités. Le système technicien a créé justement le sous-prolétariat urbain du 19e siècle, qui a créé cette misère des ouvriers terrible, n'est-ce pas, qui a entraîné le marxisme et toutes les terribles conséquences aussi du marxisme, etc. Bon, Jacques Ellul prenait une image assez parlante, il dit bien voilà, les jeunes de demain seront capables magnifiquement de pianoter sur des ordinateurs et de faire des opérations ultra complexes à partir des ordinateurs, et puis le jour où il n'y aura plus d'ordinateurs parce que soudain il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus rien, eh ben, il faudra donc se chauffer au feu de bois, faire cuire sa cuisine au feu de bois, eh bien les enfants de cette époque-là seront incapables de faire un feu de bois, parce qu'ils ne sauront pas ce que c'est qu'un feu de bois. Parce qu'ils ne sauront pas ce que c'est qu'allumer un feu de bois. Allumer un feu, pour eux, c'est de tourner un bouton électrique et puis au plus mettre un briquet, une allumette pour allumer la flamme du gaz, point. Et quand il n'y aura plus tout ça, qu'il n'y aura plus ces joujoux techniques sophistiqués, il faudra revenir aux choses de base, et bien ils seront incapables de le faire. Et alors, on imagine ce que sera le monde dans ces conditions-là, mais Jacques Ellul dit ça viendra. Ça viendra tôt ou tard parce que la machine technique, un jour, se bloquera, se grippera pour toutes ces raisons-là. Pour une ou plusieurs de ces raisons-là. Et à ce moment-là, eh bien, ce sera la catastrophe écologique mondiale. Ça, si vous lisez l'Apocalypse, vous trouvez quelque chose comme ça. Ça, plus d'un exégète l'a dit avant d'avoir fait justement l'analyse de Jacques Ellul. D'ailleurs, Jacques Ellul a aussi travaillé sur l'Apocalypse à ce niveau-là. Alors, l'homme est responsable de la création et de la nature. Mais le fait est justement que l'homme pécheur, l'homme sans Dieu, l'homme dont le Dieu est devenu la technique, parce que finalement nous arrivons à cet état dans lequel toutes les idéologies se sont effondrées dans le monde. L'homme n'a plus d'espérance en rien. Il n'a plus de foi dans aucun Dieu, dans aucune religion, dans aucune idéologie, dans aucune philosophie. Les dernières idéologies qui restaient, le marxisme, sont effondrées. N'est-ce pas ? Donc, logiquement, ici, on est à la fin d'une civilisation. Et notre civilisation aurait dû disparaître. Parce qu'une civilisation ne peut pas vivre sans grand projet. Et finalement, quel est le grand projet pour l'humanité ? Eh bien, c'est la technique. La seule idéologie qui reste, c'est la technologie, la technique. N'est-ce pas ? D'ailleurs, tout est fait pour inciter les jeunes à s'engager dans la grande aventure technique. J'entendais un sondage, qu'est-ce que les jeunes aimeraient faire ? Ben, être ingénieur. Voilà. Lorsque Lavoisier a été exécuté par la Révolution, par le tribunal révolutionnaire, il était chimiste, vous savez, Lavoisier, il avait demandé un délai de grâce, qu'on le laisse vivre encore quelque temps pour terminer ses expériences de chimie qu'il était en train de faire. Et Fouquier-Tinville lui a répondu, la République n'a pas besoin de savants. Bon, aujourd'hui, on couperait la tête facilement des gens qui réfléchissent, des philosophes, les philosophes, les littéraires, les artistes sont d'aimables amuseurs publics. On les garde un petit peu parce que, ma foi, faut de temps en temps quand même un peu souffler, quoi. Hein, mais la République n'a plus besoin de penseurs. Hein, aujourd'hui, elle n'a plus besoin de philosophes, n'a plus besoin de gens religieux à plus forte raison, n'est-ce pas? On a besoin de techniciens. On a besoin de gens qui vont s'engager dans la grande aventure technique, fabriquer des choses de plus en plus extraordinaires et de plus en plus sensationnelles dans cette croissance sans fin. C'est pas, c'est ça le but. Alors, l'utopie, la grande utopie de ce temps, la grande idole de ce temps, c'est le mythe technique, le bluff technologique, comme le dit Jacques Ellul dans son dernier ouvrage qu'il a écrit peu de temps avant sa mort sur ce sujet, qui est un petit peu son testament spirituel à ce niveau-là, n'est-ce pas? Le bluff technologique, l'homme fasciné par la technique, hypnotisé, halluciné, n'est-ce pas? Qui ne vit plus que pour ça, et qui est son espérance, qui est ce dont il attend le salut. C'est intéressant, par exemple, on entre bientôt dans l'an 2000, et qu'il y a 50 ans de cela, ou un petit peu moins, enfin, quand moi j'étais enfant, c'est pas, l'an 2000 nous était présenté, hein, comme l'âge d'or. L'an 2000, ah, vous êtes les enfants du demi-siècle, n'est-ce pas? Vous êtes des gens extraordinaires, vous allez vivre l'an 2000. Hein, c'était vraiment. Les aînés nous enviaient, n'est-ce pas? Vous allez vivre l'an 2000. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aura l'an 2000? Ben, l'an 2000, il y aura des autos qui se conduiront toutes seules, il y aura des robots qui feront votre lessive, enfin, il y aura toutes ces choses-là, quoi. Finalement, l'âge d'or était imaginé dans les années 50 uniquement en termes de technique, c'est pas d'un univers uniquement technique. C'est caractéristique, et finalement, ça n'a pas changé. Le 21e siècle, les gens le voient comme le siècle des ordinateurs, des téléphones portables, des progrès de la biologie, etc., qui va faire que le monde va devenir un âge d'or, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, les films pour enfants, c'est Goldorak et tous ces trucs-là, c'est des robots techniques extraordinaires, dans mon enfance, les bandes dessinées comme. Par exemple, je pense à une bande dessinée comme Mortimer, Black et Mortimer, des choses comme ça. Bon, bah, tout est fait pour glorifier la technique, quoi. C'est typique, n'est-ce pas? C'est le mythe de notre temps. C'est le mythe de notre temps. C'est le mythe, justement, de la croissance infinie, la croissance éternelle. La science et la technique sont les deux mamelles du monde moderne. Sans ça, n'est-ce pas? Bon, alors après ça, bah, y a pollution. Ça, c'est sûr, c'est les effets pervers seconds qui ne sont pas pris en compte. On commence à les prendre en compte, mais avec tellement si peu de choses, n'est-ce pas? Bon, de temps en temps, interdire aux véhicules qui ont des nombres impairs de voyager certains jours et les nombres pairs certains autres jours, bah, c'est amuser la galerie, quoi, c'est amuser le public, c'est se moquer de qui? Il faudrait une révolution en profondeur pour changer les choses. Et ça, hors de question, hors de question. Hein. Bon, le gaspillage. Alors ça, le gaspillage, c'est aussi un des effets pervers de la technique. Le jetable, n'est-ce pas? Il faut absolument que les objets soient conçus pour durer un temps de plus en plus court. Des voitures doivent durer pas plus de 10 ans et bientôt pas plus de 5 ans. Le recyclable, le mouchoir jetable, etc. J'en passe et des meilleurs. Enfin, tout le gaspillage est honté, quoi. Hein, avec les coûts toujours plus grands, etc. Bon, l'exploitation sans limite des ressources, etc. Bon, les effets pervers. Alors ça, on pourrait évidemment épiloguer longtemps. Alors, en tant que chrétien, comment nous situer là-dedans? Eh bien, on ne peut pas sortir du monde. Hein. C'est évident. Je parlais de la voiture tout à l'heure. Bon, ben, on est obligés tous d'avoir des voitures. Hein. Il n'est pas question de voyager en charrette à âne. Hein. C'est pas concevable. Pas question de ne pas utiliser l'électricité. Demain, on sera obligé d'utiliser les ordinateurs. On sera bien obligé. Hein. Alors, on est obligé. Ben oui, mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'on est obligé. Et ne pas aller au-devant des choses. Savoir que là, il y a une conséquence du péché de l'homme, qu'on est en train de moissonner ce qu'on a, ce que nos pères ont semé dans ce domaine-là. et ne pas pousser au système technicien. Ne pas entrer, comme disait Jacques Ellul, quand il avait une voiture, lui, je crois qu'il a appris à conduire sur un tard. C'était sa femme qui conduisait. Et bon, il avait une voiture, mais il disait que quand il recevait des publicités pour des voitures, vous savez, il disait, je les mettais systématiquement à la poubelle, parce qu'il disait, je ne partage pas la fascination de mes contemporains pour l'automobile. Hein. Il était obligé d'avoir une voiture, et il disait, j'en suis pas fier, je suis pas fier d'avoir une voiture. Il y a des gens qui briquent la voiture, n'est-ce pas, et c'est leur fierté, dis-moi, j'ai une voiture parce que je ne peux pas faire autrement, c'est tout. Hein. Bon, je crois que ça, c'est une bonne attitude, c'est une attitude chrétienne. Il y a des choses qu'on est obligé d'avoir, de faire, mais on fait ça à contre-cœur parce que, justement, on est chrétien. Hein. Et on ne pousse pas dans ce sens-là. Bon, deuxièmement, sur l'éthique aussi, je l'ai déjà dit, je le répète, conduire d'une manière prudente, hein, en sachant que l'automobile, c'est un engin de mort, et en pensant à ces 10 000 personnes qui meurent chaque année dans des accidents de voiture, eh bien, s'efforcer d'être quelqu'un qui ne va pas tuer quelqu'un par son imprudence, quelquefois. Bon, on le fait quand même parce que il y a des impondérables, l'erreur est humaine, on peut faire des erreurs de conduite et tuer quelqu'un, malheureusement, ça arrive, n'est-ce pas? Mais en tout cas, que ce soit vraiment l'erreur inévitable, en quelque sorte. Bon. Et je pourrais multiplier les exemples. Ne pas aller au-devant, n'est-ce pas? Ne pas être le premier à acheter l'ordinateur, ne pas être le premier à acheter le téléphone portable, etc., etc. Bon, il y a les choses inutiles, savoir revenir à ce qu'on disait aussi de l'éthique. Il y a l'indispensable, bon, on ne peut pas faire autrement. Bon, ça, on ne peut pas. Je n'ai pas de calculatrice, de machine à calculer, là. Je vais être obligé d'en acheter une quand il y aura l'euro, parce que je serai incapable de faire une conversion de tête. Bon, ce sera devenu indispensable. Bien. Jusque maintenant, j'ai essayé de m'en passer le plus longtemps possible. Il y a l'inutile. Je peux me passer de télé. Je peux me passer d'ordinateur pour le moment. Je peux me passer d'Internet. Je peux me passer de téléphone portable. Et j'aime autant vous dire que je ne suis pas pressé d'en avoir. Je ne serai peut-être pas toujours libre de ne pas avoir de ces choses-là, mais enfin, pour le moment, je le suis. Alors, j'en prends pas. Ça, c'est inutile. C'est le superflu. Et puis, il y a ce qui serait utile. Alors ça, c'est là qu'on discute. Bon, il y a l'indispensable. L'indispensable, il faut l'avoir. Je suis obligé d'avoir une voiture. Bon, tant pis. Il y a l'utile. Ça pourrait être utile. Quand on a acheté les ordinateurs ici pour Keren, on s'est dit, ce serait utile. Bon. Et si on n'avait pas les ordinateurs, on ne pourrait pas faire Keren comme on le fait aujourd'hui. C'était devenu indispensable. Alors ça, c'est là qu'il faut apprécier devant Dieu, dire, Seigneur, ça pourrait être utile, est-ce que je dois me procurer cet objet technique ou non, hein? Et puis ne pas avoir le culte du progrès technique, comme l'ont les hommes et les femmes de notre temps, savoir ce qu'est le progrès technique, savoir que c'est un mal nécessaire, enfin, la technique en elle-même, quand on dit, elle n'est pas mauvaise, l'artificiel n'est pas mauvais, mais c'est le système, hein, et c'est les effets secondaires. La technique est quand même le résultat de la chute. On sera amené à vivre dans un univers technique aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu. Mais ne pas en être fier, ne pas adorer, ne pas se prosterner devant le veau d'or de ce temps, n'est-ce pas, qu'est la technique. Et par conséquent, vis-à-vis aussi de la sauvegarde de la création, avoir refusé justement toutes ces choses-là, quand aussi longtemps qu'on peut le faire, parce qu'en sachant bien que là, c'est ça porte atteinte, c'est la destruction justement de la nature, et Dieu demandera des comptes à l'homme. Dans les grands jugements que décrit l'Apocalypse, Dieu demandera des comptes à l'homme. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?
L'âme ne peut pas échapper à son sort. Hein?
Pardon?
L'âme ne peut pas échapper à son sort. Le fait que si la
oui.
À ce moment-là, je veux dire, ce qui arrive maintenant était prévisible.
Ben oui, eh oui. Eh oui, à partir du moment où tout va le Caïn, puisque c'est lui, a inventé les instruments de fer, etc., eh bien, le but, comme tu dis, le bout de la chaîne, c'était l'ordinateur. Entre le premier instrument de fer qui a été créé par Tubal Caïn, qui était un truc, une espèce de manche de pioche, vraisemblablement, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire, eh bien, en inventant ça, il avait inventé l'ordinateur déjà. L'aboutissement était là. Et les effets aussi. Les effets aussi. Une filiation. Oui, oui. C'est inscrite qui est dans la chose elle-même. Oui. On ne peut pas échapper, non. Seulement, ce à quoi on peut en être conscient. On peut être conscient des effets pervers et y participer le moins possible. Et ne pas, en tout cas, en faire son Dieu, quoi. Ça, c'est la chose première. D'ailleurs, Jacques Ellul montre aussi dans la parole humiliée que l'idolâtrie est la conséquence de la technique. Parce que, finalement, l'idole, c'est une fabrication humaine. Hein, il coupe un arbre, avec la moitié de l'arbre, il se chauffe, et avec l'autre moitié, il en fait une idole. Il se prosterne devant l'œuvre de ses mains, ça c'est très important. Il se prosterne devant l'œuvre de ses mains, et c'est exactement ce que fait l'homme moderne. Hein, sa production technique est devenue son idole, et il dit « Sauve-moi ». Et on attend du robot, de l'ordinateur, du clonage, que le salut, quoi. Le salut qu'on attendait de Dieu autrefois, quoi. C'est l'idolâtrie moderne. La technologie et l'idolâtrie moderne. Et l'idolâtrie primitive était ça. C'était les idoles qu'on voit, ce qu'on voit, et le primat de la vue sur l'écoute. Hein, ce que je vois me rassure. Hein, parce qu'il y a une immédiateté du vu, tandis que le Dieu qu'on entend, c'est le Dieu lointain, c'est le Dieu dont on n'est pas trop sûr, n'est-ce pas ? Est-ce que vraiment je peux me confier dans ce Dieu-là, etc. D'où le veau d'or. Le veau d'or, l'idolâtrie d'Israël, le veau d'or, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, qu'on puisse voir. Hein. Et l'immédiateté, et d'ailleurs Jacques Ellul dit ceci, une des grandes raisons de l'athéisme moderne, c'est qu'on ne voit pas Dieu, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. On ne le voit pas. Bon. Alors, l'idolâtrie est une des conséquences de la technique. D'ailleurs, les magiciens de l'Égypte sont décrits comme étant des techniciens. En hébreu, chartoumim, c'est des techniciens. C'est-à-dire ceux qui connaissent les techniques, ceux qui connaissent les recettes. Tandis que le Dieu de la Bible est le Dieu qui n'est pas technicien. C'est le Dieu de la gratuité, c'est le Dieu qui agit dans la liberté totale, et le Dieu de la Bible est le Dieu libre, tandis que la technique est toujours asservissante. Parce que tu es tenu de suivre une recette. Il faut faire ceci, premièrement, deuxièmement, tu n'es pas libre, tu perds ta liberté dans la technique. Tandis que le Dieu de la Bible est le Dieu qui va au-delà des techniques. Il agit par la liberté de sa parole. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière, il n'y a pas de technique. Même s'il y a des lois ensuite que Dieu met, mais enfin, c'est ça. Dieu s'affranchit de ses lois, il n'est pas tenu à ses lois. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton, il devient un serpent. Tandis que les magiciens de l'Égypte en font autant par leurs techniques occultes, dit la Bible, littéralement. Étant ta main sur les eaux de la mer Rouge, et les eaux se coupent. Dieu dit à Josué, et le soleil ne se couche pas. Il y a une liberté de Dieu totale. Hein? Et la parole de Dieu, donc, est libératrice, tandis que l'idolâtrie est asservissante. Ça, c'est Jacques Ellul, c'est la parole humiliée, ça faut reprendre. Et par conséquent, la parole est libératrice, et la vue est asservissante. C'est pourquoi il y a la télé aussi. Tous les méfaits de la télé viennent de ça. Parce qu'elle est contraignante. J'ai vu à la télé, donc je suis obligé d'y passer. Je ne suis plus libre. C'est-à-dire que dans la parole, je suis totalement libre. Je suis libre d'accepter la parole ou de ne pas l'accepter. C'est pourquoi Dieu est un Dieu qui parle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la parole, dans le monde technique, il y a une disparition de la parole. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des philosophes, de ceux qui pensent, etc. On ne pense que par la parole. Aujourd'hui, la pensée est court-circuitée. Il n'y a plus que de pensée que technique. Il n'y a plus de langage que technique. Les sigles, etc. Et puis demain, le langage basique pour pouvoir dialoguer avec l'ordinateur, quoi. C'est toutes des pistes de réflexion extrêmement profondes, là, qui mettent le doigt sur le mal profond de notre monde moderne. Le premier des péchés, c'est le péché d'idolâtrie. Et le péché d'idolâtrie est lié directement à la technique. Autre question ? Ah oui, c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr, et d'ailleurs c'est leur démarche, chaque fois qu'il y a une invention nouvelle, ils en étudient les conséquences lointaines, ils l'adoptent ou ils l'adoptent pas en fonction de ça. Là, ça demande une... Oula. Ah oui, ça demande une marginalisation totale, quoi. Non, c'est pas concevable en France, quoi. C'est pas concevable. Il faut vivre dans un coin, oui. Alors, pour nous, il faut le faire un peu, mais... Il y a des limites. Il y a des limites. Ça, c'était tout notre débat des années 80, si vous vous souvenez. C'était tout notre débat. Jusqu'où ?
Quand l'homme a été sur la Lune, avant de faire ça, il y a eu tout un débat où les intellectuels, entre guillemets, réfléchissaient pourquoi l'homme irait sur la Lune, et finalement, c'était plus ou moins un projet technique fédérateur pour l'humanité.
Oui, mais ça n'avait pas de sens, cette question. Dans une mentalité technicienne, ça n'a pas de sens. On est allé sur la Lune tout simplement parce qu'on pouvait aller sur la Lune. Point. Une chose se fait uniquement si elle est faisable. Et si elle est faisable, aucun raisonnement ne pourra l'empêcher. Et l'idée justement que la Lune, c'était un projet qui n'avait aucun sens, qui n'avait aucune finalité pratique, aucune retombée pratique, eh bien, si vous voulez, on dira, mais alors on va créer, par exemple... un satellite artificiel. Quand on a lancé le premier Spoutnik en 1957, moi j'étais jeune adolescent à cette époque-là, je me souviens, dans une classe, un des professeurs est arrivé, il en pleurait, le gars. Il en pleurait. Imaginez-vous, l'homme a envoyé un Spoutnik, ou c'est quand Gagarine est allé dans l'espace, je crois. Il y a un homme là-bas qui tourne, enfin, il en pleurait, il avait des larmes aux yeux, le gars. C'est un grand jour pour l'humanité, il était ému, etc., etc. Alors, un imbécile a posé la question, mais quel est l'intérêt d'aller... Ah ben, quand on aura des satellites artificiels, on pourra communiquer, il envisageait déjà, etc. Mais le but d'envoyer un satellite artificiel en 1957, ce n'était pas ensuite les retombées pratiques dont on bénéficie aujourd'hui. On a envoyé un satellite artificiel autour de la Terre parce qu'on avait les moyens techniques de le faire, point, c'est tout. Et quand on a découvert le satellite artificiel, on se dit maintenant, à partir du satellite artificiel, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne s'est pas posé la question, disant, on a besoin, par exemple, de communiquer avec l'Australie, ce n'est pas pratique par câble sous-marin. Bon. Si on avait des satellites artificiels, ce serait plus facile. Donc, faisons des satellites artificiels. Ce n'est pas du tout ça. On a dit, aujourd'hui, on a les moyens techniques d'envoyer un satellite artificiel. Envoyons un satellite artificiel. Et quand on a envoyé des satellites artificiels, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça ? C'est ça la question qu'on s'est posée. Tu comprends ? On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire des communications par satellite. C'est tout. Et quand on a envoyé un homme sur la Lune, on a envoyé un homme sur la Lune, non pas parce qu'on pouvait en tirer des conséquences, mais on s'est dit, parce qu'on peut envoyer un homme sur la Lune. Et quand on a envoyé cet homme sur la Lune, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut aller faire sur la Lune ? Ben, il n'y a rien. Aucun intérêt. Alors on a laissé tomber. C'est tout. Aujourd'hui, on va envoyer des hommes sur Mars. Bon, s'il y a des choses intéressantes à faire sur Mars, on en enverra d'autres. Et s'il y a des coins magnifiques, le tourisme martien va se développer au syndicat d'initiative locale. S'il n'y a rien, on laissera tomber. C'est tout. C'est tout. Si vous voulez, l'objet la technique n'a aucune visée. Elle se propulse simplement par son dynamisme interne. Ce qui est faisable se fera, c'est tout. Si on en trouve un bénéfice après, ben, on en trouve un bénéfice. On trouvera toujours quelque chose. On trouvera toujours un intérêt. C'est tout. C'est pas planifié. C'est faux de croire que c'est planifié. Autre question ?
C'est vrai que toutes ces grandes choses, la Lune et Mars, etc., ça n'apporte strictement rien.
Mais ça ne serait rien. Ça serait... Non, rien du tout.
Ils maintiennent en vie leur système artificiellement, créant de nouveaux projets. On a trouvé de l'eau sur Mars.
On trouvera bien quelque chose. On trouvera bien des retombées. C'est ça qu'ils emploient. Il y aura bien des retombées positives, tôt ou tard. Parce qu'on a cette foi aveugle dans la technique. La technique, c'est bon. Si vous êtes contre la technique, si vous êtes contre ça, mais vous êtes un abominable, vous êtes un blasphémateur. Vous êtes aussi coupable que du temps de l'Inquisition, des gens qui osaient dire que le Christ n'était pas dans l'hostie. un peu de plus, on va vous brûler pour ça. Et vous entendez tous les discours, le progrès, la croissance, le modernisme. Alors que le modernisme, qu'est-ce que ça veut dire le modernisme ? Ben, ça veut dire le progrès technique. C'est tout. Modernisme, c'est rien d'autre que ça. Alors vous n'êtes pas pour le modernisme, vous ? Ah ben, vous n'êtes pas pour le modernisme, mon pauvre ami, alors vous êtes quoi ? Vous êtes... on va vous brûler, hein ? Ben non, on n'est pas pour le modernisme. Moi, je ne suis pas pour le modernisme, en tout cas. Ça veut dire quoi, le modernisme ? C'est une bêtise. C'est le progrès technique, c'est tout le modernisme. Moi, j'attends pas j'attends rien du progrès technique. J'attends rien. Alors, je ne suis pas contre tout progrès technique. Par exemple, si on découvre demain un remède pour le cancer, ou même contre le sida, je serai le premier à applaudir. Vous comprenez ? Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Hein ? Mais en tant que système, encore une fois, c'est le système, si vous voulez, qui a des effets pervers, quoi, qu'on le veuille ou non. Comment ? C'est un peu différent, quand même. C'est un peu différent. Bon, l'humanisme, bah, le modernisme est une forme d'humanisme, quoi, parce qu'elle met l'homme au centre, quoi. Hein. Seulement, même l'humanisme, maintenant, tu ne peux pas opposer l'humanisme au modernisme, au nom de l'humanisme. Du respect de l'homme, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arrêter le progrès technique. Je parlais du clonage tout à l'heure. Bon, j'entendais ce matin, il y aura des clones, qu'on le veuille ou non. Bon, l'histoire de la vache folle. Faire manger des aliments à partir de cadavres, là, d'animaux, à des herbivores. Bon, c'est une folie. Bon, on a dit, on va arrêter ça. Ben non, on n'a pas arrêté. Ça continue de plus belle. Parce que c'est faisable techniquement et ça continuera à se faire. On aura beau... dire mais ça détruit la santé des gens, etc. On s'en fiche. C'est faisable. C'est faisable et c'est économique. C'est intéressant pour un certain nombre de gens. Ça se fera, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. C'est pas la peine de s'illusionner. Je parlais informatique et liberté. C'était une commission bidon qui a été créée pour rassurer les gens qui pouvaient s'inquiéter des méfaits de l'informatique. Mais un jour, tout le monde sera sous surveillance. C'est tout. Faut pas rêver. Faut pas être bête. Faut pas s'illusionner. Ça se fera, parce que c'est faisable, c'est tout. Ce qui est réalisable techniquement sera réalisé tôt ou tard, c'est tout. Ça, c'est la loi du système technicien. C'est pour ça que l'euthanasie, c'est pour ça que l'avortement, c'est pour ça que tous ces trucs-là, ça se fera. Ça se fera. Autre chose ?
C'est lié avec l'argent. C'est...
Pardon ?
C'est lié avec l'argent.
Tout à fait. Et la technique coûte de plus en plus cher. Et c'est pourquoi, justement, là aussi, c'est un seuil qui sera un jour infranchissable. Parce que les coûts deviendront tellement, tellement importants que le système s'effondrera. Ça disait Jacques Ellul, il a bien dépeint ça, décrit ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là.